Good evening and welcome. My name is Gil Scott-Heron. My accomplices are, first from left to right, Eddie Knowles, a drummer for the Denny Zulu Dance Group, a drummer for the Simba Dancers, and a percussionist for a group called Black and Blues. The brother to my immediate left is Charlie Saunders of the Simba Dance Group and a former drummer for Loretta Parker. David Barnes, a singer for Black and Blues, will be heard later on in the evening. We'd like to do a poem for you called The Revolution Will Not Be Televised, primarily because it won't be. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Mendel Rivers to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner. The revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on reports from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lifes of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he had been saving for just the right occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so goddamn relevant, and women will not care if Dick finally screwed Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm women liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, or Engelbert Humperdinck. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Alors moi je suis tombé malade en 1966, je me suis fait renvoyer du lycée Alain Fournier à Bourges parce que j'avais écrit sur les murs du lycée « Cherche fille pour faire l'amour ». J'en suis toujours au même point et je n'ai rien à vous demander si ce n'est de l'argent pour faire l'amour avec une prostituée. Mes parents ont de l'argent, mes parents sont riches contrairement à ce qu'ils croient. Ils se prennent pour des prolétaires, moi je leur apprends qu'ils sont des bourgeois. Comme vous l'a expliqué Madame Neyer, l'abord c'est une arrière-pensée politique qui est marxiste et que je ne partage pas. Et étant donné que mes parents ont de l'argent, je leur demande de me donner de l'argent. Voilà. Autrement, je ne tuerai personne, contrairement à... J'y m'arrive de crier très fort que j'ai envie de tuer les petites filles, etc. Mais en fait, je ne suis pas dangereux. Je suis un génie physiologique. Je me contrôle très bien. Et quand je me suis masturbé, ça va mieux. À part ça, eh bien, je suis également poète. Alors, j'écris des poèmes, un très beau poème comme Les Maquisards de l'ombre, qui illustre très bien le thème des surréalistes, comme quoi... La jouissance est le lieu de rendez-vous de la vie et de la mort. C'est ainsi que je définis une voiture qui fonce dans la nuit comme un aquarium livide ou fermant de la mort.
Service, demandez-vous, s'il vous plaît.
Faites vite! Il faut que quelqu'un vous m'aide!
D'où appelez-vous?
De Kéoro, mon cul cabine. Il y a eu un bruit assourdissant. Une lumière blanche très vive dans le ciel. Puis ces envahisseurs ont commencé à nous massacrer.
Ne quittez pas, je vous passe le département des affaires.
Non, non, c'est trop tard, ils sont là.
Allô?
désirons vivre, et même vivre bien, à l'intérieur d'organisations sociales de la vie, de régimes biopolitiques qui disposent de nos vies, les négligent ou pire, essayent de les nier. Si nous ne pouvons pas subsister sans ces formes sociales de vie, et si les seules qui soient à notre portée sont celles qui vont à l'encontre de nos perspectives de vie, nous nous trouvons dans une véritable difficulté, sinon dans une impasse. En d'autres termes, nous sommes, en tant que corps, vulnérables face aux autres et aux institutions. Et cette vulnérabilité constitue un aspect de la modalité sociale à travers laquelle les corps subsistent. La question de ma ou de votre vulnérabilité nous inscrit dans un problème politique plus large d'égalité et d'inégalité, puisque la vulnérabilité peut être projetée et déniée, catégorie psychologique, mais aussi exploitée et manipulée, catégorie sociale et économique, dans le processus de production et de naturalisation des formes de l'inégalité sociale. C'est ce que nous entendons par distribution inégale de la vulnérabilité. Et pourtant, mon objectif normatif n'est pas de réclamer une distribution égale de la vulnérabilité, mais de savoir si la forme sociale de la vulnérabilité qui est distribuée est elle-même vivable. En d'autres termes, il ne s'agit pas de demander que chacun vive une vie également invivable, pour autant que l'égalité soit un but nécessaire, ce but reste insuffisant si nous ne savons pas évaluer correctement si la forme sociale de la vulnérabilité à distribuer est juste. D'une part, je tiens que le refoulement de la dépendance, et en particulier de la forme sociale de la vulnérabilité à laquelle elle conduit, sert à établir une distinction entre ceux qui sont dépendants et ceux qui ne le sont pas, et que cette distinction est au service de l'inégalité en consolidant plusieurs formes de paternalisme, ou en classant ceux qui sont dans le besoin dans des catégories essentialistes. D'autre part, je suggère que c'est seulement à travers un concept d'interdépendance susceptible de prendre en considération la dépendance du corps, les conditions de la précarité et les potentiels de performativité que nous pouvons penser un monde politique et social qui tentera de dépasser la précarité au nom de vie vivable.
cinéaste Jean Eustache.
Le cinéaste Jean Eustache s'est donné la mort dans la nuit de mercredi à jeudi à Paris. La mort de Jean Eustache bouleverse, mais ne surprend pas. Ses amis vous le diront, c'était un suicidaire. Il ne tenait à la vie que par un petit nombre de fils, si solides qu'on avait fini par les croire incassables. On s'était trompé. Le désir de cinéma était un de ces fils. Le désir de ne pas filmer à tout prix en était un autre. Ce désir était un luxe, et Eustache le savait. Il paya le prix. C'est peu de dire qu'il était né au cinéma avec la nouvelle vague, un tout petit peu après, mais avec les mêmes refus et les mêmes admirations. C'est peu de dire qu'il était un auteur. Son cinéma était impitoyablement personnel, c'est-à-dire impitoyable d'abord pour sa propre personne, arraché à son expérience, à l'alcool, à l'amour. Faire le plein de son réel pour en faire le matériau de ses films à lui, ce que personne ne pourrait faire à sa place. Seule morale, mais morale de fer. Ses films ne venaient que quand il était assez fort pour les faire venir, pour faire revenir en lui ce dont sa vie était faite. Au fil des désolantes années 70, ces films se sont succédés, toujours imprévus, sans système, sans créneau. Des films fleuves, des films courts, des émissions de télé, du réel à peine fictionné, de la fiction hyper réelle. Chaque film allait jusqu'au bout de sa matière, portait avec lui sa durée. Impossible d'aller là contre, de calculer, de prendre en compte le marché culturel. Impossible pour ce théoricien de la séduction et de la drague de séduire un public. Ce public, il l'avait eu avec lui une fois quand il avait fait le plus beau film français de la décennie, La maman et la putain, 1973. Sans lui, nous n'aurions aucun visage à mettre sur le souvenir des enfants perdus de mai 68. Perdus et déjà vieillis, bavards et démodés. Lafon, Léo, et surtout Françoise Lebrun, son châle noir et sa voix entêtée. Sans lui, il ne resterait rien de cela. Ethnologue de son propre réel, Eustache aurait pu faire carrière, devenir un bon auteur, avec fantasmes et vision du monde, un spécialiste de lui-même en quelque sorte. Sa morale le lui interdisait. Il ne filmait pas ce qui l'intéressait. Il parvenait à transcrire ce qui le travaillait. Les femmes, le dandysme, Paris, la campagne et la langue française. C'était déjà beaucoup. Tel un peintre sachant qu'il n'en aurait jamais fini avec ça, il ne cessa de revenir sur le motif. Se servant du cinéma non comme d'un miroir, ça c'est pour les bons cinéastes, mais comme de l'aiguille d'un sismographe, ça c'est les grands. Le public, un moment séduit, oublia cet ethnologue pervers à qui beaucoup de malheurs continuaient d'arriver. Artiste et rien qu'artiste, il ne savait rien faire que des films. Il tenait au contraire le discours le plus modeste et le plus orgueilleux à la fois, celui d'un artisan. L'artisan pèse tout, évalue tout, assume tout. mémorise tout. Ainsi faisait Eustache. Eustache parlait de ses maîtres, auxquels il n'osait pas se comparer, de ses autres artisans que furent avant lui Pagnol ou Renoir. Je n'oublierai jamais la façon dont il évoquait leurs films, dont il les faisait revivre dans sa langue, plan par plan, avec l'accent. Cela bouleversait, mais ne surprenait pas. Eustache ressemblait trop à son temps pour y être à l'aise. Il a fini par perdre. Tant pis pour nous.
Dream last night. You were inside the house.
Des cas, malheureusement, ce meilleur des cas qui est celui du cinéma de création laisse la place au cinéma industriel, à la série télé, et là c'est plus du tout un pseudo-divan, mais c'est de la drogue, c'était un rapport de fascination. On allume l'écran de télévision, on attend la répétition des mêmes visages, des mêmes phrases, des mêmes significations, tout ce qu'il peut y avoir de rupture événementielle dans le monde, traité par ce filtre masse médiatique est transformé dans une sorte de bouillie insignifiante, plus rien ne peut advenir. On est pris dans un encerclement masse médiatique, ce que Virilio appelle un rétrécissement de la dromosphère. Il n'y a plus moyen de se déplacer. Au moment de la guerre du Golfe, on a vu que, par exemple, l'ICI de la télévision était complètement dominé par le maintenant, par le rapport immédiat. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Étant entendu qu'il se passe rien, que tout ce qui pourrait venir à se passer est immédiatement absorbé et résorbé dans une sorte de rassurance avec un commentateur qui explique les choses, avec un général pendant la guerre du Golfe qui faisait des commentaires soi-disant avisés, souvent ridicules. Mais ce qu'on constate avec les médias, on le constate dans tous les domaines. On le constate dans le domaine, par exemple, de l'économie. Mais il y a d'autres possibilités. Une autre économie est possible. D'autres médias sont possibles. Une autre philosophie est possible. D'autres formes d'art sont possibles. C'est cette question du possible, cette question de la reprise en compte, de la réappropriation qui se trouve posée aujourd'hui avec une grande urgence. Sinon, eh bien, si rien d'autre que ce qui est possible, on court vers une catastrophe planétaire, purement et simplement. We'll be right back.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
De pouvoir, une pseudo-normalité, contrôle de l'université par les tenants du savoir, il y a le triomphe apparent du néolibéralisme, la religion du marché, comme si de rentrer dans le marché économique, ça devait résoudre tout, comme par miracle, tous les problèmes. Donc beaucoup d'illusions, beaucoup de fascination, notamment de la part des pays de l'Est à l'égard des modèles occidentaux. Et puis ils s'aperçoivent à l'arrivée que c'est plus compliqué que ce qu'ils croyaient. Alors donc il y a une sorte de à la fois de ce que j'ai appelé de glaciation, d'entrer dans des années d'hiver dont on se demande quand est-ce qu'on va en sortir, avec des théories comme ça, très cyniques, comme le postmodernisme, du bon oui, c'est comme ça parce que ça peut pas être autrement, il faut s'adapter, etc. Mais tout ça, ça correspond à une sorte de tabula rasa par rapport à beaucoup d'idées, beaucoup d'illusions, à partir de laquelle, devant nous, se trouve la question, je dirais la question de la question. Un nouveau questionnement, une nouvelle invention de perspective, de proposition, de pratique. Donc je crois qu'on est dans un espèce de mixte entre une démoralisation collective qu'on ressent beaucoup un peu partout en Europe, et en même temps avec un espoir de reconstruire quelque chose. Et il n'y a pas grand chose de manifeste dans ce domaine, encore que dans le domaine de l'écologie, il y a quand même des gens qui commencent à réagir, à intervenir, mais tout ça c'est devant nous, il y a tout un futur qui est en train de s'élaborer.
La question, à mon avis, la grande question fondamentale qui saisit la France en ce moment et qui empirera l'avenir, cette question n'est pas dans un mot, elle est dans un fait. On aurait tort de la poser dans le mot république. Elle est dans le fait démocratie, fait considérable, qui doit engendrer l'état définitif des sociétés modernes et dont l'avènement pacifique est, je le déclare, le but de tout esprit sérieux. C'est parce que la question est dans le fait démocratie et non dans le mot république qu'on a eu raison de dire que ce qui se dresse aujourd'hui devant nous avec des menaces selon les uns, avec des promesses selon les autres, ce n'est pas une question politique, c'est une question sociale. La bêtise, en effet, vue du dedans, ne ressemblait pas à s'y méprendre au talent, si, vue du dehors, elle n'avait pas toutes les apparences du progrès, du génie, de l'espoir et de l'amélioration, personne ne voudrait être bête et il n'y aurait pas de bêtise. Tout au moins serait-il aisé de la combattre. Le malheur est qu'elle est quelque chose d'extraordinairement naturel et convaincant. Aussi, quand quelqu'un juge un chromo plus artistique qu'une peinture à l'huile, son jugement comporte une part de vérité beaucoup plus facile à démontrer que le génie de Van Gogh. De même, est-il très facile et très rentable d'être un dramaturge plus puissant que Shakespeare, un romancier plus égal que Goethe. Un bon lieu commun est toujours plus humain qu'une découverte nouvelle. Il n'est pas une seule pensée importante dont la bêtise ne sache aussitôt faire usage. Elle peut se mouvoir dans toutes les directions et prendre tous les costumes de la vérité. La vérité, elle, n'a jamais qu'un seul vêtement, un seul chemin. Elle est toujours handicapée.
Which brings us to the second star. A stuntman, former race driver, Colin Seagrave. Colin Seagrave.
All right, Colin.
He will drive our replica of James Dean's car. How you doing, sweetness? You up for this?
You bet.
I myself shall play the role of James Dean's racing mechanic, Rolf Wudrich, sent over from the Porsche factory in Zuffenhausen, Germany. Now, this mechanic was himself fated to die in a car crash in Germany 26 years later. The third, and in some ways, most important player, the college student, Donald Turnip Seed, played by movie stuntman Brett Trask. Brett Trask. Turnip Seed was on his way back home to Fresno for the weekend. James Dean was on his way to an automobile race in Salinas. Salinas was just a dusty town in Northern California. The two would meet for one moment. But it was a moment that would create a Hollywood legend. You'll notice that we're not wearing helmets or safety padding of any kind. Our cars are not equipped with roll cages or seat belts. We rely solely on the skill of our drivers for our safety so that we can bring you the ultimate in authenticity. All right. Here we go. The fatal crash of James Dean.
Be sure with Vaughn. This is his show.
Mm.
tears and blood. The night I'm laughing away you go. Play that come on around. Can I assure that I'm the comedy? Wanna try that you want so low. What you wanna do, you want on this house.
Oh, no, no, I'm ready. Okay, then. 5 seconds to go. 5, 4, 3, 2, 1. In your own time.
If I give you an example, I've often thought to myself that Seinfeld, which is America's most popular ever sitcom, Seinfeld. Do you know of the Seinfeld sitcom in America? If you think of a classic American, Jerry Seinfeld made this sitcom about a group of people living together. Everything is about irony and parody, and what you do with your kitchen cupboard is imbued with as much feeling or thought as whether someone believes in God, if you like. Do you see anything in that?
The construction, the way I understand it, doesn't produce any sitcom. And if sitcom is this, and this, if the people who watch this think that deconstruction is this, the only advice I have to give them is just read, stop watching sitcom, and try and do your homework and read.
C'est d'être un peu moins à la fin celui qu'on était au commencement.
Parce qu'ils sont désuets. Ce qu'on appelle l'obsolescence, c'est une réalité économique, mais à côté de l'obsolescence économique, il y a une espèce de montée poétique qui n'a pas, je crois, tout à fait suffisamment été mise en valeur. Nous manquons de poètes techniques.
Voilà, c'est avec la voix de Gilbert Simondon que nous clôturons ce deuxième épisode. Merci à toutes, merci à tous, et à très bientôt.